Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bon après-midi à tous, merci d'être avec nous sur les antennes de Radio Okapi. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Étoile. Aujourd'hui on parlera d'association, on parlera de l'association Love Air One avec Olivier Luzolo qui en est le président et vous êtes aussi le fondateur de cette ONG. Bonjour.
Bonjour Anana.
Alors un homme dans le monde associatif, surtout à la présidence d'une association, d'une ASBL, c'est un peu rare. Quel est le regard des gens quand vous vous présentez comme tel?
Bah, c'est clair que c'est souvent surprenant de voir un homme qui est très social, qui s'occupe des enfants. Mais bon, je pense que dans chaque homme, il y a une partie de féminité. Et moi, ma partie de féminité, c'est mon amour pour le social, pour les autres, tout simplement.
Love Air One a été créé en 2016, hein, en avril 2016, d'abord en France,
d'abord en
puis
France,
en juin 2018 dans sa branche RDC. Qu'est-ce que vous y faites exactement? D'abord peut-être, pourquoi Love Air One? Est-ce que c'est une signification?
Alors Love Air One, c'est un anglicisme qui veut dire Love Air One, donc littéralement amour, premier amour dans les airs. Concrètement, ça veut dire qu'on donne de notre générosité à toutes les personnes qui sont dans le besoin dans le monde, à travers le monde, tout simplement. Et l'objet principal de Love Air One, c'est la scolarisation des enfants de la rue. Et donc on a choisi la RDC parce que nous sommes principalement originaires de la RDC, mais on étendra notre générosité à travers le monde, partout où on aura besoin de nous.
Si les moyens le permettent.
Si les moyens le permettent, évidemment.
D'accord. Alors, on aura l'occasion de s'étendre en long et en large sur, justement, le rôle ou le fonctionnement de votre association Love Air One. Olivier Luzolo, vous êtes Congolais, hein, vous êtes né en Belgique, vous approchez la cinquantaine. Ça ne vous gêne pas qu'on vous dise
voilà,
votre âge.
Voilà, non, ça va.
Alors, vous avez
on vieillira tous un jour. Hein.
Vous avez fait vos études en Belgique, une partie de vos études hein, en Belgique et au Congo. En France, vous avez suivi plusieurs formations en France et en Suisse. Et vous m'avez dit, ce qui est particulier quand même dans votre parcours, c'est que vous avez fait des cours de sapeur-pompier pour lesquels vous avez reçu un diplôme et une nomination. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire cette formation de secouriste?
Bon, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans l'humanitaire sans en avoir les compétences requises. Parce qu'aujourd'hui, s'occuper des enfants, par exemple, notre choix, c'est pas un choix anodin. Et c'est surtout une vocation, c'est plus une vocation parce que déjà la vie elle n'est pas facile et si on doit prendre de notre temps, de notre énergie pour servir les autres, il faut se rassurer d'avoir les compétences nécessaires parce qu'un enfant de la rue c'est pas un enfant comme un enfant de la maison, c'est un enfant qui est peut-être drogué, qui est un enfant qui est alcoolique, c'est un enfant qui est on va dire déréglé. Il faut des compétences particulières pour pouvoir l'accompagner au mieux et donc j'ai jugé important de faire une formation et qui n'est pas une formation facile parce que la formation de sapeur-pompier en France c'est une formation qui a un côté sportif militaire et puis il y a un côté médical où il faut étudier, il faut avoir des notions sur les secourismes, etc. pour pouvoir venir en aide à ces enfants-là. Donc il fallait avoir cette base-là pour pouvoir asseoir un départ solide pour pouvoir accompagner ces enfants sur le cursus de la scolarisation.
Alors Monsieur Luzolo, j'essaye de bien comprendre, hein, peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière, vous êtes juriste de formation, vous êtes spécialiste des questions de marketing et de communication. Mm-hmm. Vous avez été chef d'escale Air France. Filiale Afrique. Mm-hmm. Finalement, c'est plusieurs domaines qui ne se rencontrent pas. Le seul point d'intersection, c'est Olivier Luzolo.
Voilà.
Alors, comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire, justement, qu'est-ce qu'on va apprendre comme sapeur-pompier? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas?
Écoutez, aujourd'hui, toutes ces formations m'ont ouvert la route. Mais la formation de base, c'est la formation de juriste. Comme on dit en droit, le droit mène à tout. J'ai fait un peu de marketing, un peu de communication, un peu de journalisme comme vous. J'ai touché un peu à tout, mais j'ai chuté par mon dernier travail avant celui-ci, où je suis superviseur d'un concessionnaire automobile, où j'étais donc en Suisse sapeur responsable d'accueil des demandeurs d'asile enfants, donc mineurs, sur tout le canton de Vaud. Donc on les accueillait et puis on les prenait en charge. Donc c'est de là qu'est parti l'idée de créer donc cette association à travers la souffrance de ces enfants et de toutes ces embarcations qui périssaient en mer, etc., aux portes des côtes européennes. Et on s'est dit, bon, on est en Europe, on a aidé ici, bon, voilà, pourquoi pas aider au Congo aussi.
Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez été responsable de l'accueil, de l'hébergement des demandeurs d'asile en Suisse. Quel était votre rôle? Quel était le travail que vous faisiez exactement?
Alors, j'ai travaillé pour EVAM, EVAM qui veut dire établissement vaudois d'accueil des migrants. Donc on reprenait, on accueillait tous les enfants qui venaient avec des parents ou qui venaient seuls principalement et qui venaient demander de l'aide, du secours en
des
Suisse.
Enfants qui traversaient la
enfants,
Méditerranée.
Des enfants qui partaient de l'Afrique, qui partaient de l'Érythrée, de l'Éthiopie, du Congo, bref, du monde entier. Et donc des enfants mineurs qui n'avaient pas 18 ans. Et notre rôle, c'était de les recueillir, de les soigner, de les rassurer et puis de les prendre en charge et enfin de les scolariser. Donc je ne fais qu'aujourd'hui à travers l'Over One ce que j'ai appris dans mon travail, dans mon métier et puis voilà, donc il n'y a rien qui se fait par hasard et voilà pourquoi je travaille avec des médecins, des juristes, des gens qui ont travaillé dans l'humanitaire aussi pour nous accompagner au mieux afin de mieux servir ces enfants.
Ce travail-là, c'est vous-même qui l'aviez choisi dans ce centre-là?
Oui, c'est moi-même qui l'ai choisi. Bon, vous savez, quand on vit en Europe, pendant un moment, y a, par rapport à l'âge, on n'a on peut-être pas le choix, on n'a peut-être pas le choix de faire, on va dire, de cocher la bonne case et on prend ce qui nous est tendu. Et donc, moi, j'ai eu l'opportunité donc, de connaître un responsable qui travaillait à EVAM, établissement vaudois de l'accueil des migrants, et qui m'a proposé ce poste-là. Et puis, quand j'ai commencé, je suis tout de suite tombé amoureux et puis mon côté social est ressorti. Et ensuite, pour. Parachever donc si vous voulez cette formation là, donc j'ai fait la formation de sapeur-pompier volontaire en France où je travaillais en Suisse et comme j'habitais en France la région frontalière, je dormais en France et je faisais mon métier de sapeur-pompier volontaire, c'est-à-dire on ne me payait pas, c'était complètement gratuit et je sauvais des vies en France et je travaillais pour l'Afrique mais en Suisse.
On reviendra sur cette question de volontariat aussi parce que vous avez souhaité nous en parler, mais je veux dire quels étaient vos rapports avec ces enfants que vous accueillez. J'imagine que c'est d'abord et avant tout des rapports professionnels, mais étant africain, voyant des Africains qui viennent, surtout des enfants, qui traversent dans des conditions souvent très difficiles et dangereuses, quel est votre regard, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous dites pour l'Afrique en ce moment-là?
Vous savez, quand on travaille dans des situations assez particulières comme celle-là, on est tout le temps ému, on a tout le temps le cœur noué, parce que c'est pas évident de voir un enfant atterrir au milieu de nulle part, en Europe, où il fait un climat horriblement froid, où on est loin de ses parents, de sa famille, où on apprend de loin le décès d'un de ses parents, un frère, une sœur, l'enfant est esselé, abandonné, quel que soit, j'ai dit bien, le matériel qui va couvrir, quel que soit ce qu'on donne à cet enfant pour essayer de combler le vide familial, et ben cet enfant-là est complètement perdu. Donc cet enfant a besoin d'un encadrement d'abord psychologique, parce que la plupart, on a connu des enfants qui sortaient de guerre et qui sont déjà à l'arrivée complètement déboussolés. Il faut un accompagnement psychologique, psychique. Avoir un médecin, un psychologue qui suit ces enfants-là pour pouvoir les ramener un tout petit peu à une vie normale. Et c'est difficile. Travailler avec ces enfants, c'est une vocation, comme je vous le disais, parce qu'on a connu des cas, des suicides, hein, parce que voilà, il a rien à faire là. Il mange tous les jours, hein, on lui donne de l'argent de poche tous les jours, mais l'enfant se met à consommer des produits illicites, va dans la drogue. C'est vraiment compliqué. Donc voilà pourquoi je vous le disais, il faut une vocation pour accompagner ces enfants.
Est-ce que ce que vous me dites, au fait, c'est réellement le contact avec ces enfants, c'est réellement ce travail qui vous a poussé finalement à créer All Over One?
Oui, mais aussi à d'autres paramètres, hein, comme par exemple, vous savez bien que bon, ces enfants prennent des embarcations assez dangereuses, mais bon, traversent les zones, les eaux troubles et arriver aux côtes des îles européennes, ben les embarcations chavirent, les gens meurent, 1000 morts, 1500 morts, sans guerre, sans bataille, ça fait mal. Ça fait mal. Et là, on s'est tout de suite renvoyé la responsabilité à tel ou tel autre pays. Et c'est compliqué. C'est compliqué de voir ces enfants qui n'ont pas demandé de naître et qui fuient la misère pour aller chercher à survivre ailleurs. Et là, ils arrivent au bord des côtes européennes et ils perdent leur vie. Et ça fait très très mal. Alors là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en Afrique, il faut aller en Érythrée, il faut aller d'où ils viennent pour les aider chez eux. Parce que je pense que quelqu'un qui a parcouru une scolarité normale ne va pas s'aventurer à traverser des océans dans des toboggans, dans des bouées. C'est dangereux, c'est mortel. Et donc voilà, donc je pense que la scolarisation est un moyen éducatif efficace pour pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice par rapport à ce phénomène.
Je vous propose, Olivier Luzolo, de marquer une pause, puis nous revenons pour la suite de cet entretien. C'est la suite du magazine Étoile. Nous recevons aujourd'hui M. Olivier Luzolo, juriste de formation, spécialiste des questions de marketing et communication. Il est surtout le président de l'association LoverOne, hein, qui a été créée, on l'a dit, en France en 2016, puis en RDC en 2018. Alors au début, on a parlé au début de cette émission, on a parlé de votre parcours, hein, de votre formation de sapeur-pompier en France, où vous étiez volontaire, vous avez travaillé en Suisse, vous avez été aussi responsable de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile en Suisse. Donc finalement, c'est au contact de ces enfants que vous rencontrez dans votre travail.
Absolument.
Que vous avez créé LoverOne. Vous vous présentez aussi comme étant une âme sensible justement aux questions qui touchent aux enfants. Alors, on voudrait maintenant parler de LoverOne France 2016, l'année de création de cette association. C'était quoi le but? Vous avez insisté, hein, sur la scolarisation des enfants, qui est un facteur, le développement intégral de chaque être humain. Mais en créant LoverOne France, c'était quoi le but? Parce que les problèmes en France et en RDC ne sont pas les mêmes.
Exact. En fait, lorsque j'ai quitté le foyer d'hébergement en Suisse, j'ai pris un peu de temps pour réaliser que je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi-même. Il y avait beaucoup de sacrifices à la caserne de pompiers où je travaillais bénévolement pour sauver des vies, alors qu'à côté, en Afrique, nos frères mouraient, etc. Et je me sentais impuissant grâce à ça. Et là, bon voilà, un déclic m'est venu. Et je me suis dit, bon voilà, il faut créer, il faut aider ces enfants,
mais
il faut
les aider.
Un tout petit peu. Donc il faut créer donc une structure pour pouvoir aider ces enfants chez eux, en aidant en même temps l'Europe et en même temps l'Afrique. Et donc voilà. Donc j'ai démissionné de la caserne parce qu'il fallait du temps. Il fallait du temps pour s'occuper de LoverOne que je venais de créer avec certains amis en France. Donc j'ai démissionné de la caserne pour me consacrer entièrement à LoverOne France. Et l'idée principale, comme me le demandait l'assistante de notre maire à Pontarlier en France, mais vous allez créer une association pour aider les enfants mais qui ne sont pas de notre ville. Comment expliquer ça au niveau de notre mairie? Et ben ma réponse était claire. Et ces enfants qui viennent, et ben ont besoin d'être aidés chez eux en Afrique. Donc c'est une façon pour LoverOne France de pouvoir apporter sa pierre au problème du flux migratoire en aidant ses enfants chez eux en Afrique à travers la scolarisation. Donc je pense que un enfant qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui a fait des études, qui est conscient, ne va pas s'aventurer à prendre une bouée et puis traverser des eaux troubles et arriver jusqu'en Europe. Donc voilà. Donc je crois que ça peut aider. C'est peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais une goutte d'eau importante, parce qu'il s'agit des vies humaines. Et pour moi, si on sauve 50 vies humaines, c'est déjà important.
Alors, ce que vous nous dites, c'est donc l'activité principale en France, c'est de collecter des fonds qui sont ensuite envoyés ici au Congo pour soutenir justement la scolarisation des enfants de la rue.
Voilà. Donc, la création de l'Over One France, c'est en fait l'objet est le même objet qui est la scolarisation des enfants de la rue ici en Afrique, mais l'Over One France collecte des fonds pour venir en aide à l'Over One RDC.
Alors, qu'est-ce que vous dites, puisque vous organisez comme ça des soirées d'élevée de fonds là-bas en France, est-ce que votre public ou vos invités comprennent justement, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce que voilà, ils sont accusés de sorcellerie ou d'autres choses?
Bon, vous savez qu'au début c'était compliqué, surtout qu'avec tout ce qui se passe à travers le monde où les associations abusent un tout petit peu, ne vont pas jusqu'au bout de leurs ambitions, etc. Et nous, on a pris les choses à bras le corps. J'ai enseigné plusieurs fois dans les écoles le but de notre association, pourquoi être bénévole, pourquoi la pauvreté en Afrique, et surtout insister sur le fait qu'en Afrique, il n'y a pas de structure, particulièrement en RDC, il n'y a pas de structure sociale bien établie qui prenne en charge ces enfants-là. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants dans la rue qui ne sont pas pris en charge, etc. Et donc notre responsabilité aujourd'hui était de pouvoir aider ces enfants-là à vivre, un lendemain meilleur par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc c'est vraiment important. Du moment où ils ont compris, on a eu un élan de générosité à travers des dons. Aujourd'hui, on a par exemple en France un conteneur de 20 pieds avec différentes fournitures scolaires, chaussures, vêtements pour les enfants, etc. On n'a même plus de place où les mettre. Et c'est pour dire que voilà, on a été accompagné par la mairie de Pontarlier qui nous a donné gratuitement la salle pour pouvoir faire nos soirées de levée des fonds. Il y a eu un engouement assez important de l'association des carnavals du Rio de Janeiro qui sont venus prester gratuitement. Il y a le professeur Issa de la Suisse qui est venu prester gratuitement, c'est un danseur professionnel. Et donc voilà, on voudrait aujourd'hui avoir le même engouement, la même volonté de venir gratuitement aider les enfants qui font partie on va dire des personnes les plus vulnérables dans ce monde.
Alors l'Over One, on l'a dit, soutient la scolarisation des enfants dans la rue. Olivier Luzolo, très concrètement ici à Kinshasa, où vous êtes établi depuis juin 2018, qu'est-ce qui est déjà fait ou qu'est-ce que vous comptez faire?
Ah oui, petite correction, donc je suis revenu définitivement, on va dire, je suis toujours à cheval entre la France et la RDC, mais je suis revenu définitivement depuis le 20 décembre 2017. Et en fait, comme je vous le disais au début, l'Over One a pour objet la scolarisation des enfants de la rue. La scolarisation est un thème valise qui renferme trois gros projets. Le premier projet, c'est la construction donc, du centre d'hébergement qui va accueillir 50 enfants. Ensuite, le centre de formation sur des métiers porteurs à court terme, moyen terme. Enfin, la construction d'une structure agropastorale. Alors, le projet était projet quand on n'avait pas encore de terrain. Maintenant, le projet est en cours parce qu'on a un terrain de 1 hectare sur lequel, à Maluku, sur lequel on va construire un foyer qui va accueillir donc 50 enfants et qui est estimé à peu près à 250 000 dollars clé à main et meublé.
Donc, voilà. Alors, d'où la grande question, hein, c'est la question de financement.
Oui, exactement.
Oui. Parce que j'imagine, comme toute autre association, il y a les cotisations des membres, mais qui ne pourront pas couvrir cette enveloppe. Comment comptez-vous vous y prendre justement pour créer le centre d'hébergement qui va donc accueillir ces enfants?
Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on est buté donc à cette problématique de la confiance des ONG vis-à-vis des donateurs et d'autres politiques, d'autres personnes. Ils nous demandent de faire d'abord un premier pas, ensuite ils vont aider. C'est un tout petit peu demander quelque chose et son contraire. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas attendu la main tendue de qui que ce soit pour pouvoir avancer. Parce que le terrain qu'on a acheté, on a acheté avec nos propres fonds. Et le terrain est au nom de l'Over One, pas au nom d'un particulier. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Nous demandons aux gens qui nous soutiennent, parce que nous, quand on nous donne un don, tout est mis sur la toile, donc les gens savent exactement ce à quoi servira leur don, etc. On a un compte bancaire ici et en France. Quand on nous donne des sous, voilà, les gens, les donateurs sont toujours le bienvenu. Ils peuvent venir vérifier ce à quoi a servi leur don. Pour l'instant, on s'organise de manière à établir un plan d'action pour les années qui suivent avec mon équipe, afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins de ces enfants-là. Mais pour l'instant, on fait des petites réceptions, on organise des soirées, des récoltes de fonds pour pouvoir, faire en sorte que ces enfants rêvent d'un avenir meilleur.
Alors, vous l'avez dit, scolarisation des orphelins, plutôt scolarisation des enfants de la rue. Oui. Mais à travers trois sous-projets, création d'un centre d'hébergement, la construction d'un centre de formation sur les métiers à court ou moyen terme. Mmh. C'est aussi la construction d'une structure agropastorale. Mmh. Alors, comme tout autre auditeur, on se demande, mais comment se fera concrètement la sélection de ces enfants-là ou de vos bénéficiaires? Vous avez cité, vous avez donné le nombre de 50. Mm-hmm. Comment se fait concrètement, puisque les enfants de la rue, vulgairement appelés ainsi, il y en a partout, il y en a nombreux ici à Kinshasa. Comment vous comptez vous y prendre?
Bon, écoutez, c'est une bonne question qui revient souvent. Déjà, j'aimerais préciser qu'un enfant de la rue, on ne le scolarise pas en le gardant dans la rue, sinon on ne va pas y arriver, parce que déjà c'est des enfants qui ont beaucoup de problèmes. Il faut les soigner, il faut les sevrer à la drogue, à l'alcool, il faut soigner leur peau parce qu'ils sont très très malades la plupart. Et puis là en ce moment, ce qu'on fait tous les vendredis, on fait le tour de la ville, on prend une dizaine d'enfants, on leur donne à manger en travaillant avec la cathédrale Notre-Dame de Lingala, qui nous offre un espace, et puis où le restaurant Le Délice, où on va, on offre à ses enfants à manger, etc. On établit une relation de confiance avec ses enfants, dont l'âge varie entre 3 et 14 ans. Les plus petits viennent des fois avec leurs parents, etc. Et au moment venu, où le foyer sera construit, finalisé, nous irons voir et les autorités communales de la ville où on va recueillir les enfants, eux qui vont prendre contact avec les parents pour pouvoir nous céder les enfants, afin de préparer leur scolarisation.
Mais il y a quand même une question juridique qui se pose, parce que ces enfants qui vivent dans la rue ne sont pas tous orphelins. En tout cas, ils ont au moins un parent, ils ont parfois des tuteurs. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Est-ce que la loi vous y autorise?
La loi prévoit la prise en charge de ces enfants-là, parce que les enfants de la rue sont des pupilles de l'État. Et donc, du moment où nous prenons contact avec l'autorité compétente qui est le bourgmestre à travers l'entité sociale de chaque mairie, etc., et puis qui nous confirme que cet enfant est vraiment un enfant de la rue, un enfant abandonné parce qu'il a été rejeté de suite des malédictions, parce que l'enfant est considéré comme un enfant sorcier, etc., etc., il est de notre responsabilité de travailler avec ces autorités-là, de prendre ces enfants-là. Et évidemment, dans le cursus, dans notre plan d'action, il y a une branche qu'on appelle la réinsertion de ces enfants-là. Donc les enfants dits par exemple sorciers, il y aura un travail de réinsertion avec les parents de ces enfants-là pour réinsérer ces enfants-là dans leur famille respective. Ça, c'est le but principal. Et ensuite, il y a la scolarisation pour pouvoir apporter à ces enfants-là une éducation primaire.
Alors, au cours de ces repas que vous organisez les vendredis, vous dites tous les vendredis, qu'est-ce que vous leur dites pour qui vous approchent qu'est-ce que vous leur dites? Venez, on va partager un repas. Comment est-ce que vous faites pour les approcher?
Oui, déjà, on le fait avec Maître Alain Djibou, qui a longtemps travaillé aux côtés de ces enfants-là de la rue, donc qui est expérimenté, qui parle leur langage. Parce que je vous signale ici que les enfants ne sont pas tout le temps dociles. Il y a des enfants qui sont sauvages, il y a des enfants qui sont violents. Il faut une approche particulière pour pouvoir les approcher. On est simple, on va les voir, on les salue, on se présente et puis on leur explique notre projet. Donc vraiment le projet qui consiste à construire un centre d'hébergement pour eux, mais il faudrait que nous puissions apprendre à se connaître, et là on a par exemple un repas à partager avec eux, etc., dont les volontaires acceptent. Généralement, il n'y a pas trop de problèmes. La plupart veulent de l'argent, mais nous, on va vraiment sur de la durée. Donc, la plupart ne nous demandent pas de l'argent parce qu'ils nous connaissent, ils commencent à nous connaître. Et d'ailleurs, quand ils me voient, ils me saluent, tonton Olivier. Même dans la rue, vous êtes sur le boulevard, vous êtes dans votre véhicule. Il y en a qui viennent pour qui vous connaissent pas, qui viennent vous accoster pour vous demander de l'argent, tout ça. Ceux qui nous connaissent viennent à la rescousse pour dire non, pas lui. Lui, il construit pour nous un centre. Et ça nous fait plaisir.
Alors, est-ce que finalement, c'est très bien ce que vous faites, est-ce que ce n'est pas du rêve que vous vendez à ces enfants qui espèrent, en vous rencontrant tous les vendredis, échanger, manger, qui espèrent peut-être dans un mois, dans deux mois, la construction de ce centre d'hébergement, qui n'arrive pas parce que tout dépend des moyens que vous avez. Est-ce que ce n'est pas du rêve seulement que vous leur vendez?
Non, c'est pas du rêve parce que c'est vrai que le chemin parcouru est encore lent. C'est vrai que dans le cadre dans lequel nous vivons aujourd'hui en RDC, où plus de 99% de la population est pauvre, vit sous le seuil de pauvreté, les quelques bonnes personnes avec qui nous travaillons sont déterminés à aider ces enfants. Moi, personnellement, je suis déterminé, même si j'ai resté tout seul sur Terre. Moi, je vous dis, je suis déterminé. On a commencé ce projet depuis 2016 en France, où on a acquéri un terrain à Kinkolé. Malheureusement, les autorités de cette ville ne nous ont pas aidés. Donc, je parle des autorités communales de Kinkolé. On a perdu ces terrains-là. On était obligé d'aller acheter un autre terrain à Maluku où les choses se passent bien, où on a tous les documents, etc. Et on avance. Donc c'est pour vous dire que notre détermination est vraiment d'aider ces enfants sans rien attendre en retour.
Alors selon vos calculs, quand est-ce que ce projet sera réellement concret? Quand est-ce que le centre d'hébergement sortira des terres?
Écoutez, là, nous sommes en train de faire le bornage du terrain. Donc là, on a fait le bornage. C'est un hectare, c'est pas rien, c'est beaucoup. Avec nos cotisations, on va monter le mur, on va sortir des terres quelque chose d'ici, on va dire un an, on sortira tout. Mais bon, les bonnes âmes qui nous entendent aujourd'hui, nous sommes disposés à leur présenter le projet et à pouvoir... On attend d'eux leur générosité afin de nous aider à aller loin. Donc concrètement, on ne pourra pas donner une date précise parce que tout se définit par rapport aux finances. Et tant qu'on ne les a pas encore, on ne peut pas s'aventurer à donner une date précise, madame.
Alors, Olivier Luzolo, que faut-il faire pour résoudre durablement cette question des enfants de la rue, selon vous?
Aujourd'hui, Nana, je vous signale qu'à Kigali, qui est l'Afrique, qui n'est pas l'Europe, il n'y a plus aucun enfant dans la rue. Tout simplement parce que le gouvernement a pris à bras le corps le problème des enfants, a créé une cité des enfants de la rue, a recueilli tous ces enfants-là, et où ils sont hébergés, ils sont pris en charge par l'État rwandais. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Congo peut faire la même chose, mais... aura toujours besoin de notre soutien parce que nous avons de l'expérience, nous avons de l'expertise par rapport à l'accompagnement de ces enfants-là. Et ensemble, avec le gouvernement, nous pouvons travailler dessus pour asseoir une base assez solide et accompagner ces enfants-là durablement.
Alors la toute dernière question, Monsieur Olivier Luzolo, nous l'avons dit au début de cette émission, vous avez travaillé dans un foyer comme responsable de l'accueil et de l'hébergement des demandeurs d'asile en Suisse. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général d'un concessionnaire automobile et président de l'association Lover One France et RDC. Comment est-ce qu'on arrive à gérer son temps entre tout ça?
Être superviseur général de Suzanne, qui est un concessionnaire automobile, fait partie de ma carrière professionnelle. Et puis Lover One, c'est ma vie privée, c'est le temps qui me reste. Évidemment, les gens doivent savoir qu'il ne faut pas négliger le côté professionnel pour le côté caritatif. Donc c'est d'abord le travail, la famille, et ensuite prendre son temps pour s'occuper des autres.
Donner d'un peu de soi, comme vous me disiez, il n'y a pas beaucoup de volontariat ici dans notre pays. C'est le constat du moins que vous avez fait?
Écoutez, c'est vrai que quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa en 2017, fin 2017, il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas beaucoup de soutien. Et mais au jour d'aujourd'hui, lors de notre dernier repas, soirée de récolte de fonds le 16 juin dernier, la salle était pleine, les gens étaient complètement étonné de voir qu'on a travaillé d'arrache-pied pendant un an pour pouvoir leur apporter un résumé assez éloquent, assez poignant de la situation des enfants de la rue, et qu'on ait été déterminés, mon équipe et moi-même, à pouvoir aider ces enfants à aller jusqu'au bout.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Olivier Louzolo. Je rappelle que vous étiez notre invité pour le magazine Étoile. Merci à Thérèse Concou et à Nicole Koudiangela qui ont contribué à cette émission. Était au micro, Nana Bolojoy Aleomoto. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve la semaine prochaine.
Merci Nana, merci infiniment pour les enfants.